L'ouverture de la parole de Dieu est toujours un moment solennel. Est-ce que tout le monde m'entend? Sinon, vous levez le pouce. Pas comme ça, hein, vers le haut. D'accord. Oui, alors je disais que la parole de Dieu est toujours un moment solennel parce qu'elle nous révèle que son amour est toujours d'actualité. Et je voudrais quand même, dans un moment, que cette parole, c'est une prophétie qui a été donnée par le prophète Ésaïe à peu près 700 ans avant la venue du Seigneur Jésus. Et voici ce qu'elle dit, parce que c'est Jésus qui rentre dans le temple, dans la synagogue, qui se lève pour faire la lecture, et on lui donne le livre d'Ésaïe. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit la suite. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Jésus va dire, cette parole, aujourd'hui, elle est accomplie. Oui, le Seigneur pouvait dire, cette parole, aujourd'hui, est accomplie. Et c'est merveilleux parce que je ne sais pas si vous avez fait attention dans la lecture, cinq fois, pour proclamer. Renvoyer. Et l'autre partie, elle est au-dessus. Cinq fois le mot pour. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas venu simplement comme ça, mais il est venu pour accomplir les desseins de Dieu. Et je voudrais avec vous, ce matin, vous partager une partie, bien sûr, de ce qui est dans la parole. C'est une parole qui est vivante, mais vous allez voir que, malgré qu'elle soit vivante, elle n'est pas toujours bien reçue. Alors, le titre, s'il te plaît, Clément, L'homme à la main sèche. Oh, je sais bien, c'est un passage qui est très connu pour ceux qui sont lecteurs de la Bible. L'homme à la main sèche. C'est Matthieu, l'évangéliste, qui pourra dire dans son évangile que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues et prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité. On sait que la synagogue à l'époque, comme le temple, était le lieu où on adorait publiquement le Seigneur. C'est un lieu de prière. Mais ce lieu de prière, si Jésus n'est pas là, n'aura aucune valeur spirituelle. Il ne faut pas s'attendre à des événements célestes si Jésus n'est pas présent dans un lieu. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'Église, vu que le temple a été détruit. L'Église, elle est le lieu de rassemblement d'hommes, de femmes, et où Jésus se tient par son esprit. Ici, dans ce passage, il est dit qu'il y avait un homme à la main sèche. Je vais peut-être vous le lire quand même, parce que c'est important. Il est dit que Jésus entra de nouveau dans la synagogue, et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient ceux qui étaient présents, ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus dit à l'homme, lève-toi et viens là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de guérir? Est-il permis le jour du sabbat de guérir ou de bien, ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer. Mais ils gardèrent le silence. Alors Jésus promène son regard sur tous ces hommes, et c'est vrai que son regard était indigné et en même temps affligé de voir que l'endurcissement du cœur de ces hommes qui étaient religieux était à un tel point que plus rien ne passait. Il va dire à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Il y avait, selon une traduction, là un homme qui avait la main desséchée. Ce terme montre que ce membre n'avait plus aucune vie, que le sang avait cessé de circuler dans cette main. La mort était le seul élément visible de cette main. Et c'est Luc qui va apporter une précision à ce passage. Il va dire que c'était la main droite. C'est elle qui permet de saluer quelqu'un. On serre une main. C'est elle qui peut aussi lever pour adorer. C'est le psaume 28 qui dit ceci, « J'élève mes mains vers ton sanctuaire. » Et Paul va dire à Timothée, dans une lettre, « Que les hommes élèvent des mains pures. » On sait que les mains des hommes sont souvent portées à faire le mal. Et je crois que ça a été rappelé ce matin à travers cette tragédie. Tragédie, mais c'est ignoble. Comment on peut arriver à tuer des gens qu'on ne connaît pas de cette manière? C'est vrai, il n'y a pas plus ignoble que ça. Dieu dit tu ne tueras point. Et je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas la peine de prolonger sur ça. Mais on s'aperçoit que la main de l'homme, elle est toujours faite pour faire du mal. Mauvaises pensées viennent toujours du cœur. Mais c'est les mains qui accomplissent les mauvaises choses. Jésus, il va arriver au terme de son ministère, à la dernière Pâque. Il est dit que le soir venu, il se mit à table avec les 12. C'est ce qu'on appelle la Sainte Cène. Et pendant qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le dis en vérité, un de vous me livrera. Alors, les disciples qui sont là, indignés, comment ça? Un de nous va te livrer? C'est pas possible. Et Jésus va confirmer, il dira, c'est celui qui a mis la main dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. On sait aussi que quelques jours plus tard, après la résurrection, Jésus va se présenter devant les disciples. On sait qu'ils sont dans un lieu qui est fermé, et par crainte justement des religieux, des pharisiens. Et il nous dit que Jésus vient au milieu d'eux en disant, soit sur vous. Et on sait qu'à partir de là, il montre ses mains, il montre son côté. Mais voilà que Thomas n'était pas là présent. On ne sait pas où il était. Et quand il revient, les disciples lui disent, vu le Seigneur Jésus, il y a une très grande joie parmi eux. Et Thomas, il dit, non, si moi, je ne vois pas, si moi, je ne vois pas les trous dans les mains, si moi je ne vois pas le trou dans le côté, je ne crois pas. C'est une tragédie. Thomas, qui a suivi pendant 3 ans et demi le Seigneur, qui l'a vu accomplir des choses, et puis le Seigneur leur a dit à plusieurs occasions, il faut que je fasse la volonté de mon Père, et la volonté de mon Père, c'est que je donne ma vie, mais personne ne peut me l'enlever. C'est moi qui la donne, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il savait tout cela. Et une semaine plus tard, il nous est dit que dans le même lieu, les disciples étaient toujours réunis, étaient là, et le Seigneur se représente devant eux. Et il va appeler Thomas. Il va lui dire, Thomas, viens, mets ton doigt dans mes mains. Mets ton doigt, mets ta main à mon côté. Et là, il nous est dit que Thomas, mon Dieu, il est là, il reconnaît. Et Jésus va lui dire, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Voyez-vous, cette parole, aujourd'hui encore, elle retentit. Tous ceux qui ne le voient pas, on ne voit pas Jésus, mais par son esprit, on peut être convaincu qu'il est vivant, qu'il nous aime. Il veut encore faire quelque chose de particulier par nous. La question que l'on peut se poser et que je vous pose, comment est notre main. Et quand je parle de la main, ce n'est pas la main physique, c'est la main du cœur. C'est là où se bousculent les pensées, les bonnes, les mauvaises. C'est de là que sort tout. Comment est la main de votre cœur? Est-elle comme celle de Judas, sèche? Le verset 2 de la lecture que nous venons de faire nous dit que l'état du cœur de ces hommes qui sont là, non pour se réjouir, mais pour accuser. Vous savez, la religiosité n'a pas changé. Aujourd'hui encore, la religiosité des hommes n'a toujours pas déserté la maison de Dieu. Au nom de Dieu, des hommes sont prêts à faire mourir. Au nom de Dieu, on professe une religion telle qu'on la conçoit. Si la main de l'homme est sèche, on peut se dire sans se tromper que leur cœur de ces hommes-là, à cette époque, était encore plus sec. On sent que la haine transpire au lieu de la compassion. Vous savez, la parole elle est là pour nous rappeler des faits qui se sont déroulés à cette époque. Et vous savez, comme ce pharisien qui priait sur la place publique et qui disait « Je ne suis pas comme tous ces gens. Je donne ma dîme, je prie tant de fois, je fais ci, je fais là. » Et il va même dire « Je ne suis pas comme cet homme. » Un païen qui était là, mais qui lui se tapait la poitrine. Et il n'osait pas lever les yeux en disant « Je ne suis pas digne. » Jésus va dire « Qui c'est qui va être relevé ?» Ça sera lui, parce que lui se reconnaît ce qu'il est. L'un est justifié et l'autre ne l'est pas. Alors Jésus, pour revenir au passage, il va dire à l'homme « Lève-toi ». Et j'aime cette parole quand il dit « Et viens là, au milieu ». Avec Dieu, on ne peut pas vivre dans la pénombre, et encore moins dans l'ombre. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on vienne dans sa lumière. Et aujourd'hui encore, nous sommes confrontés à ce problème. Combien d'hommes et de femmes, au nom de la religiosité, se cachent. Se cachent. Donnent des apparences de vie. Mais ce qui fait l'essentiel n'est pas là. Jésus va dire à l'homme qui avait le message, lève-toi et là, mets-toi au milieu. On peut penser que cet homme cherchait peut-être à cacher son handicap. Il faut savoir qu'à cette époque, celui ou celle qui avait un handicap était considéré comme une malédiction. Vous avez entendu parler de la femme à la perte de sang. Elle cachait. Cet homme-là aussi essaie de cacher au mieux que possible cette main. Mais Jésus lui dit, là, tiens-toi au milieu, de façon que tout le monde te voit. Déjà, on voit que la foi de cet homme se manifeste. Et c'est ça qui est important de comprendre. Si nous manifestons la foi de Dieu, non seulement tout le monde va le voir, et c'est là que le Seigneur va pouvoir faire un acte de puissance. Celui qui cache ses transgressions ne pourra pas jamais prospérer. Nous sommes invités à venir à la lumière de Dieu parce que non seulement il met nos fautes devant lui, il nous donne le moyen d'être purifiés. Et ici, sa grâce va surabonder pour cet homme. Parce que le verset 4, il est dit, Jésus parle à ces hommes, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Il pose la bonne question. N'oublions pas qu'on est dans un lieu religieux où Dieu devrait avoir toute sa place. Est-il permis de faire du bien ou de faire du mal, de tuer une personne ou de la sauver? Il nous est dit que là, tous gardèrent le silence. On peut dire qu'il y a une différence entre le silence des hommes et le silence de Dieu. Vous savez, comme moi, quand Jésus a été mis en croix, il est arrivé à un moment donné que Jésus va crier « mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Le silence de Dieu a été total. Et la seule raison qu'il y a eu ce silence, c'est que Jésus, là, à ce moment-là, portait les péchés de toute l'humanité. De moi, de toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour ces hommes, cette manière de faire silence en eux, c'était une façon de jubiler. Ils se disaient, là, on va l'avoir. Là, on va le coincer. Et on sait qu'à plusieurs occasions, ces hommes religieux ont essayé de coincer Jésus. Souvent dans la synagogue. C'est étonnant. Hein? Souvent. Rappelez-vous de cette femme qui était voûtée, qui venait à la synagogue, et ça faisait 18 ans qu'elle était comme ça. Donc, ce qui veut dire que ses yeux ne pouvaient voir que la terre. Jamais ses yeux ne pouvaient s'élever vers le ciel. 18 ans. Jésus va la libérer et il va dire, ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée alors que Satan la tenait sous son emprise depuis 18 ans. Ça peut paraître étonnant, ça. Comment dans une synagogue, dans un lieu où Dieu se tient, une femme pouvait être sous l'emprise de Satan. Ça paraît étonnant. Mais Dieu se glorifie. Parce que Dieu montre que rien n'est caché à ses yeux. Et quand c'est son moment d'intervenir, son intervention est faite d'une manière puissante. Vous savez, c'est Paul qui écrivait cela à Timothée, et il est bon de se le rappeler. Il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus va dire à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Un jour, les disciples de Jésus ont posé une question qui est intéressante et qui nous intéresse encore aujourd'hui. Ils vont dire, qui peut être sauvé? Et Jésus va leur répondre de manière claire, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Il en est de même pour la guérison. On peut se réjouir des progrès de la médecine. Aujourd'hui, on voit que la médecine va de progrès en progrès. Et merci, Seigneur, de ce que ces progrès-là sont visibles. Et on peut être que reconnaissant. Mais on sait aussi que la médecine, encore aujourd'hui, elle a ses limites. Et là où la médecine ne peut plus rien faire, c'est Dieu qui intervient. Sur un plan spirituel, nous sommes tous comme cet homme à la main sèche. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a une force qu'on appelle le péché. Toute créature qui naît a comme racine, pour être clair, peut-être un cancer, le cancer, et dans chaque créature. C'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est là. Pourquoi? Parce que cela a été transmis, l'héritage que la créature humaine a reçu depuis le premier homme, Adam. On sait que lui, et ça nous poursuit depuis, a pris le fruit défendu. Et à partir de ce jour-là, cette main spirituelle est devenue sèche. Dieu va dire là, pour Adam, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer la main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin. On peut dire que le péché a mis une sécheresse dans le cœur de l'homme, un peu comme ce figuier, vous savez, qui a été séché, parce qu'il ne produisait pas de fruits. Alors, pour revenir à cet homme, le fait qu'il se soit levé et qu'il soit venu là, au milieu, qu'il a étendu sa main à la demande de Jésus, est révélateur que cette foi qu'il avait en lui grandissait et qu'il s'attendait à recevoir quelque chose d'important. Là, c'était la guérison. Mais aussi, c'était surtout la délivrance. La délivrance de pouvoir ne pas être à l'envers des autres, ne pas pouvoir participer dans la vie sociale. Parce que s'il était la main droite, on peut penser que déjà son handicap l'empêchait sûrement de travailler, de pouvoir vivre. Rien ne nous est dit sur cet homme, en dehors de ce passage-là. On ne sait pas comment il s'appelle. On ne sait pas s'il avait de la famille. On ne sait pas le côté social. Mais son handicap l'empêchait de pouvoir prétendre à beaucoup de choses. Matthieu va dire à ce sujet de cet homme que sa main droite devint saine comme l'autre. Et qu'à partir de ce jour-là, il allait pouvoir pleinement vivre pour Dieu, car désormais, effectivement, ses deux mains devenaient pures. Alors la question encore, qu'est-ce qu'il en sera de nous? Est-ce que nous allons venir à Jésus, tel que nous sommes? Ou alors, est-ce que nous allons faire partie de ceux qui vont sortir et être toujours sous le joug de l'esclavage? Ce qui veut dire que le péché sera à nous, toujours. C'est un choix important que Dieu nous donne encore aujourd'hui. C'est de ne pas être comme ces pharisiens, mais de devenir comme cet homme qui a été délivré. La croix est peut-être qu'un symbole. Voilà, cette croix, elle est là depuis 1982, je crois, à peu près. Je l'ai vue, moi, cette croix-là. Mais qu'est-ce qu'elle représente exactement? Un morceau de bois? Vous allez sur les chemins, croix partout. Qu'est-ce que ça représente pour les hommes d'aujourd'hui? Mais pour beaucoup, ça n'a aucune valeur. C'est une croix. Oui. Et pourtant, sur cette croix est mort le Dieu créateur. Le Dieu créateur que nous avons fait mourir. Vous allez me dire, mais non, il y a 2000 ans, je n'étais pas là-bas. Hein. Je ne suis pas concerné du tout. Il faut savoir que si nous n'acceptons pas que Jésus devienne le maître de notre vie, c'est comme si on mettait notre main pour planter les clous. Alors, peut-être qu'à la sortie, certains vont me dire, mais tu as exagéré là, ça ne va pas ce que tu dis là, ce n'est pas juste. Contrôlez la parole de Dieu. C'est la parole qui vous éclairera. Ce qui sort de ma bouche, c'est des paroles. Jésus est mort pour chacune de nos vies. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que nous allons en faire? Est-ce que nous allons dire, non, écoutez, ce n'est pas pour moi? Ou est-ce que vous allez dire, aujourd'hui, cette parole qui résonne, qui me rappelle que je suis pécheur, que j'ai besoin du secours de Dieu, si je ne viens pas à lui, tel que je suis, je continue à être perdu. Il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a que deux. Soit je reste dans mon état de mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Soit je viens à Jésus pour avoir la vie. C'est important. Vous allez me dire, mais attends, Georges, c'est un culte, là, ce matin. Et tu fais de l'évangélisation? Nous sommes tous des croyants. Ah bon? On est tous des croyants? Ah, moi, je veux bien le croire. Mais à celui qu'on ne pourra pas tromper, c'est Dieu. Dieu sait exactement qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Hein? Qu'est-ce que c'est ta main sèche? Est-ce que ce sera le caniton? Ah ben non, écoutez, si ma famille venait à savoir que Jésus est le maître de ma vie, mais ça serait un scandale. Vous êtes trop bien? Non. Venez tel que vous êtes. Ne cherchez pas plusieurs chemins. Vous savez, regardez, je fais allusion peut-être encore à cette tragédie qui est triste. 129 personnes ont trouvé la mort. 129. Et ce n'est pas dit qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais posons-nous la question. Ces personnes qui sont mortes, la plupart étaient dans un spectacle. D'autres étaient dans un restaurant. D'autres étaient autour du stade de foot. Est-ce que vous pensez est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir là, dans les minutes qui allaient suivre? Alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils étaient prêts à rencontrer Dieu? C'est une question qui est très importante. Est-ce qu'ils étaient prêts à rencontrer le Dieu vivant et vrai, celui qui est notre Créateur, celui qui nous aime d'un amour? Imaginez comment Dieu Créateur vient pour sa créature et mourir. Ça paraît impensable. Et pourtant Dieu l'a fait. C'était le seul moyen que Dieu a trouvé. Oh, il avait essayé par toutes sortes d'autres moyens, les sacrifices perpétuels à tout moment, d'animaux qui était pur. Mais Dieu a compris que ce n'était pas le moyen possible. L'homme ne pouvait pas être sauvé. L'homme était pardonné sur le moment, mais il rechutait, parce que le péché est en nous. Il fallait vraiment qu'il y ait un sacrifice, comme un agneau pur. Et c'était son fils. Et si on accepte cela, si on vient à Jésus, si on dit, je te demande pardon, pardon pour ma vie qui a été une vie pleine d'embûches. Je me suis laissé avoir par l'esprit de ce monde. Et si je viens simplement lui disant, mais Seigneur, reçois-moi. Je suis malheureux, mais j'ai besoin de ton secours. Si tu viens comme ça, si aujourd'hui tu entends sa voix, et si tu n'endurcis pas ton cœur, alors Jésus peut faire le même miracle qu'il a fait à cet homme. C'est un miracle physique, d'accord. Mais ce qu'il veut surtout, c'est faire un miracle du cœur. Et le miracle du cœur, il n'y a que Jésus qui peut le faire. On va prier. Seigneur, comment ne pas être confus devant un tel amour que tu as manifesté à la croix, Seigneur. Ces paroles que tu as pu dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Seigneur, c'est vrai que nous ne savions pas, et je ne savais pas ce que je faisais. Mais Seigneur, comme il est bon de venir à toi tel qu'on est, Seigneur, s'approcher de toi et reconnaître ce que je suis. Et t'inviter dans ma vie, Seigneur, afin que ma vie ne soit plus dirigée par moi-même, mais que ce soit toi, Seigneur, qui tienne les rênes de ma vie pour m'amontrer, pour m'éclairer, Seigneur. C'est ce que tu veux faire encore dans cette matinée, Seigneur. Parle au cœur de ceux qui sont là, de ceux que tu connais parfaitement leur vie. Tu sais exactement le besoin dans lequel ils se trouvent. Et toi seul, Seigneur, tu peux combler ces cœurs et les amener à vivre pleinement la vie. Merci Seigneur Jésus. Amen.
Je partage avec vous les annonces pour la semaine et puis pour après. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un apéritif après, Craig? Oui, hein. Donc après le culte, en bas, chacun est invité pour partager un petit moment. pour un petit apéritif. Concernant les annonces de la semaine, le Femme Club de lundi se retrouve chez Emmanuel et Rebecca à 14h. Ouais. Les jeunes adultes se retrouvent chez Fred et Nancy, donc mardi. Concernant le programme du week-end d'après, donc pas le week-end prochain, le week-end d'après, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment cette participation pour la récolte de nourriture dans le cadre de la banque alimentaire, où les différentes églises évangéliques participent à cela. Il y a encore beaucoup de place. Il y a encore beaucoup de place pour s'inscrire. Si vous n'avez pas d'accès Internet ou si vous ne savez pas où vous inscrire, vous pouvez demander à Jean-Paul ou à moi-même. C'est avec plaisir qu'on vous inscrit. C'est important aussi de penser à cela. Pendant ce même week-end, il y aura donc les marchés de Noël sur la place devant la mairie. Donc de vendredi à dimanche en fin de journée. Notre fête de Noël qui aura lieu donc le samedi 19 décembre à la salle Gaston Laverrière à 17h. Comme déjà précisé les dimanches précédents, il y a donc les calendriers qui sont au fond de la salle, qui sont en vente. On a reçu quelques exemplaires de ce calendrier qui est un calendrier mensuel, qui est au prix de 1,50 €. Qui comprend donc pour chaque mois un verset biblique et un petit développement sur ce verset. Sinon, suite aux attentats de vendredi soir, j'ai mis sur le tableau au fond de la salle le communiqué du CNEF que Craig nous a lu ce matin. Et c'est important par rapport à cela de se rappeler que c'est important de ne pas avoir de haine, de ne pas faire d'amalgame non plus par rapport à nos frères musulmans, par rapport à nos amis musulmans qu'on connaît. Ce sont des choses différentes, il faut faire attention de ne pas les mélanger parce qu'on pourrait avoir tendance à cela. Cette semaine, comme chaque semaine, nous vous invitons de prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution. Et cette semaine, on redémarre une nouvelle année où on fait un tournus entre les différents pays qui sont dans l'index de persécution mis en place par Portes Ouvertes. Donc, on vous invite à prier pour la Corée du Nord et pour les chrétiens tout particulièrement qui sont dans ce pays. Alors, en Corée du Nord, le fait de posséder une Bible ou même de chanter un cantique peut entraîner la mort. C'est terrible. Prions donc pour les chrétiens de toute confession. Mais prions aussi pour ceux qui sont au pouvoir dans ce pays. Moi, j'ai envie de vous dire, prions pour Kim Jong-un, qui dirige ce pays, qui dirige la Corée du Nord, après son père et son grand-père. Dieu est le Dieu des miracles. Et si un changement de politique dans ce pays semble à vue humaine impossible, Dieu est quand même le Dieu des miracles. Et là aussi, j'ai envie de dire, refusons la haine qu'on pourrait avoir par rapport à des fonctionnements qui nous choquent. Voilà, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Psaume. Psaume 121, c'est David qui parle. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Amen. Que votre secours vous vienne vraiment de l'Éternel. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.